shines.
African girl, you come on up in my bima. You know me, I really wanna take you for dinner. You know me, I get the money, passion, a bitter. For my area, they call me Godzilla. For the burn, they money, yeah, pata pata. If you got chance, make sure, say you bitter. If another nigga want carry my senorita, I go chop on like, say, now say, move it down.
Bad boys like you.
She need ya, biggie back away, they make a bad man Chateau Roma. Philomena do the dirty wine for the conga. No fit to leave you for any reason. I want to invest in your body, I want to invest with my money, You know say now you are go marry, How many people.
Bonjour, bonjour, docteur, gardez vos positions. On va se retrouver dans un petit instant avec notre deuxième invité pour le rendez-vous santé. C'est la partie prévention dans un petit instant. Et vous êtes normalement, chers invités, déjà en liaison sur la ligne de la radio africaine. Donc on commence avec dans un petit instant. Alors, est-ce que vous êtes là, Thierry Cardozo? Thierry Cardozo, vous nous entendez?
Allô,
Thierry Cardozo?
Oui.
Allô?
Bonjour, je vous entends.
Bonjour, mal. Thierry Cardozo.
Bonjour, docteur Cardozo, l'appareil.
Bonjour, docteur Cardozo, Massamba Sassoum Diop, docteur. Est-ce que vous nous entendez également?
Bonjour.
Merci à vous.
De très loin.
Je vous entends. Bonjour à vous. Bonjour aux auditeurs.
Très bien. Alors, merci de nous rejoindre. Alors, l'actuelle pandémie du coronavirus constitue une réalité particulière et inhabituelle. Celle-ci peut affecter les personnes sur le plan physique, mais également sur le plan psychologique, pardon. Alors, en effet, dans un tel contexte, nombreuses personnes vivent des réactions de stress, d'anxiété et de déprime. Depuis le 17 mars dernier, les personnes sont confinées chez elles. Seuls ceux qui vont travailler, se soigner et faire des courses peuvent se déplacer avec une attestation. Les enfants ne vont plus à l'école. L'épidémie a également des conséquences pour les enfants qui restent confinés chez eux avec leurs parents. L'épidémie de Covid-19 continue donc de progresser dans le pays. Nous en parlons avec vous. Alors tout d'abord, docteur Diop, comment expliquez-vous les chiffres qu'on nous annonce ce matin concernant la France? Plus de 1300 personnes décédées des suites du Covid-19. Bonjour, docteur.
Oui, ben de toute façon, on savait qu'on n'était pas du tout au pic de l'épidémie. Et que la cinétique faisait que probablement, et encore, parce qu'on ne peut pas en être sûr, que c'est au milieu de cette semaine qu'on espère arriver au pic et ensuite à la décroissance. Donc en fait, c'est effectivement lié au nombre de personnes qui ont été hospitalisées en réanimation, au nombre de nouveaux cas, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive encore à cette augmentation. Il y a toutes ces personnes âgées, toutes ces personnes faibles oui. qui, du coup, décèdent après un certain nombre de jours de réanimation. En général, c'est à peu près à partir du 7e jour que soit ils s'améliorent, soit ils s'aggravent et ensuite décèdent. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à ce pic-là. On est en train d'arriver à cette augmentation qui n'est pas encore le pic.
Docteur Thierry Cardozo, on compte parmi le personnel soignant et les médecins de nombreux décès. Êtes-vous inquiet pour le personnel soignant?
Bonjour. En effet, c'est une situation assez particulière où le personnel soignant qui connaît bien les mesures de protection à appliquer. Lorsque notamment ils doivent prendre en charge des patients qui sont atteints ou qui sont suspects d'être atteints. Et donc en fait ça dépend aussi un petit peu des contextes, bien que le contexte à l'hôpital est différent des contextes en ville.
Oui.
Et donc en effet ça demande beaucoup de rigueur dans l'approche du patient, et c'est ce que essayent de faire au mieux les soignants, et notamment en médecine de ville, mais aussi toutes les autres professions soignantes qui sont amenées à prendre soin des patients, et donc c'est pour ça aussi qu'il est très très important de rappeler à l'ensemble de la population qu'il faut absolument rester chez soi, parce qu'en restant chez soi, évidemment, on diminue et on limite au maximum la circulation du virus, et donc ça permet aux soignants de mieux faire leur travail et de faire leur travail pour vraiment les patients qui le nécessitent.
Alors, on parle beaucoup en France de la chloroquine. Le médecin de la santé, Olivier Véran, a donné son autorisation pour des essais cliniques. Alors, où en est-on, docteur Massamba Diop? Alors, quel est votre avis sur la chloroquine? Alors, que doit-on dire aujourd'hui aux éditeurs qui nous écoutent? Est-ce que ce médicament, cette molécule, est efficace? Donc, où en est-on? Et est-ce que vous pensez que dans les prochaines semaines, on pourra donner de plus en plus de chloroquine aux personnes malades?
Oui, alors, vous avez dû le voir, c'est un sujet très sensible.
Ouais.
C'est-à-dire que quand on se place sur le plan scientifique pur, et beaucoup de médecins vont se placer sur ce plan-là, on a besoin d'avoir des études pour prouver qu'elle est vraiment efficace avec un certain recul. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, l'étude qui a été faite là sur 24 patients était prometteuse, mais ce n'est pas pour autant qu'extrapoler ensuite à 1000, 10 000, 15 000 patients, on aurait les mêmes résultats, puisqu'il y avait plusieurs, ce qu'on appelle des petits biais dans l'étude. Mais par contre, elle est effectivement extrêmement intéressante. Après, quand on se place en période d'urgence, comme c'est le cas actuellement, en période entre guillemets de catastrophe sanitaire ciblée, c'est là où on peut considérer que dans ce cas-là, on passe outre les méthodes habituelles et qu'on peut dire, ben, de toute façon, on le fait. Mais le risque, c'est quoi? C'est que justement, ce qui est en train de se passer dans la population, certaines fois, c'est que les gens le prennent à titre personnel, c'est-à-dire vont à la pharmacie, demandent le médicament et le prennent eux-mêmes et s'auto-médiquent. Et je peux vous dire que à l'époque où la chloroquine était à disposition comme ça dans les pharmacies en Afrique, on avait toutes les semaines des personnes qui étaient en intoxication aiguë avec des morts. Donc c'est pas négligeable. Par contre, à partir du moment où c'est prescrit par un médecin, à partir du moment où c'est utilisé dans les services de réanimation ou les services, en tout cas, qui s'occupent des patients graves. C'est complètement logique, ça rentre dans une vraie thérapeutique qui a été proposée avec un antibiotique associé. Et là, c'est complètement autre chose. Et les choses, de ce point de vue-là, c'est en train d'évoluer. Et c'est les semaines qui vont venir qui vont permettre de prouver, de voir si carrément il faut l'élargir encore plus.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez les deux temps qui sont différents. Celui du médecin qui doit prendre des précautions et celui de la population qui veut tout de suite trouver une solution. Et c'est en ça que c'est très délicat.
Et d'ailleurs, dans l'attente des conclusions du test, le médicament est administré aux malades qui souffrent de formes graves, mais pas pour les formes sévères. Donc, dans un premier temps, et au vu de l'urgence, c'est un médicament qui est quand même utilisé.
Oui, tout à fait. Et je pense que les choses vont évoluer très vite. Vous savez, de ce point de vue-là, si jamais, pour les cas dans la semaine, dans les deux semaines, en parallèle à l'étude, hein, les gens s'aperçoivent, c'est ça aussi dans l'étude, c'est-à-dire que quand on s'aperçoit qu'il y a un bénéfice qui est manifeste très rapidement là, la décision et les propositions seront même faites en anticipé. Vous savez, les médecins, ce qu'on veut, c'est soigner les gens, c'est les sauver. C'est pas du tout préserver une idée quelconque. C'est pas des choses purement intellectuelles. Et on veut vraiment trouver, mais on veut pas mettre en danger les patients. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'on peut mettre en danger. Voilà.
Thierry Cardozo, un mot peut-être sur la chloroquine?
Bah, écoutez, moi je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. Dans toutes ces situations-là, il y a besoin d'avoir des stratégies de traitement bien codifiées et qui s'appuient en effet sur ce qu'on appelle une balance bénéfice-risque. Et comme ça vient d'être dit, je crois qu'il faut préciser les indications et voilà, ça relève en effet des études et des essais qui doivent être menés, multipliés pour qu'il y ait une vraie sécurité dans l'emploi de ce traitement ou d'autres traitements d'ailleurs qui, comme vous l'avez vu, sont aussi à l'étude.
Alors, on va parler du cas de l'Afrique. À présent, hein, l'Afrique, à ce stade, commence à comprendre qu'elle est dans le même bateau que l'Europe et l'Asie. On en parlait avec vous, docteur Diop, la semaine dernière. Les Africains ont, dans un premier temps, cru qu'ils n'étaient pas concernés. Aujourd'hui, vu le nombre de cas qui ne cessent d'augmenter, il y a une prise de conscience des autorités qui ont pris de nombreuses mesures, et des Africains également. Alors, tous les cas confirmés se sont multipliés, docteur Diop, sur le continent africain. Alors, comment on explique cette augmentation de façon assez spectaculaire des cas sur le continent africain?
Si vous regardez, c'était justement ce dont on avait parlé la semaine dernière, c'était qu'effectivement, le virus, il est venu d'Asie, il est passé par les escales, l'escale est entre autres l'Europe, et ensuite, maintenant, il n'y a pas de vol direct, et ensuite est en train de descendre en Afrique. Donc ça, c'est la logique, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en épidémie décalée, c'est-à-dire que le décalage, il est d'environ 3 semaines, à peu près, oui. Et que le pic très probable, parce qu'on peut espérer que pour X ou Y raison, on est moins de cas graves, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on nous aurons un pic, et on le voit tout doucement, on est en train de se caler exactement sur les courbes que l'on avait aussi bien en Chine qu'en Europe, et peut-être et aujourd'hui maintenant aux États-Unis. Donc en fait, on voit que ce sont des multiples. Hein. Vous savez, ce que vous avez aujourd'hui, a priori, vous en aurez 27 fois plus secondairement. Donc en fait, on est vraiment en train de se caler sur ces courbes-là. Et le but, justement, du confinement, le but de toutes les mesures, c'est d'éviter de continuer sur ces courbes et de l'arrêter et d'arriver à un plateau comme ça s'est fait en Chine avec ce confinement extrêmement intense et comme c'est en train d'être fait en France.
C'est-à-dire qu'on peut craindre qu'après l'Europe, l'Afrique devienne un nouvel épicentre de l'épidémie, docteur Diop?
En tout cas, pour l'instant, on n'a aucune raison de penser autrement. Je vais vous donner les chiffres théoriques. Hein. Par exemple, si vous dites que en Chine, il y a eu à peu près 1%, 1,1% de la population qui a été atteinte, cela donnerait aux alentours de 160 000 personnes atteintes au Sénégal, ouais. Auxquelles ce qui ferait environ 24 000 patients qui devraient être mis sous oxygène, donc qui seraient à hospitaliser sérieux, et ce qui ferait aux alentours de 5 à 8 000 cas très graves en réanimation. Voilà juste si on prend la projection de ce qu'on a vu réellement en Chine. Donc vous comprenez que nos systèmes seront totalement dépassés si on était dans ce cas-là. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement le faire en amont, cette prévention, en essayant par ces mesures de confinement, d'éviter la transmission. Mais avec toutes les difficultés que ça a, vous en doutez, c'est-à-dire que vous confinez des personnes qui vivent au jour le jour, qui ont de quoi manger, de quoi acheter, de quoi manger que pour le lendemain. Ouais. C'est clair qu'il faut des mesures d'accompagnement et pas n'importe lesquelles, aussi bien individuelles ciblées sur le plan financiers, voire des distributions de vivres. En tout cas, les États sont en train de réfléchir avec et au niveau international aussi, de savoir comment gérer ce problème, parce que ce n'est pas comme en Europe où de toute façon 90% de la population au moins a un salaire, ensuite les autres ont un revenu minimum d'insertion ou équivalent ou RSA, enfin en tout cas tout ce qu'on connaît en Europe et qui n'existe pas du tout en termes de protection en Afrique. Donc les mesures d'accompagnement doivent être majeures par rapport à ça.
Alors parlons à présent des conséquences sur la vie quotidienne de l'épidémie de coronavirus. Alors quels sont les effets psychologiques? Docteur, on va parler également des effets psychologiques du confinement, de la quarantaine. Donc essayez de nous expliquer un petit peu le processus. Quels sont les effets psychologiques?
Je n'entends rien. Allô?
On parle en fait des... Docteur, vous m'entendez là?
Oui, montez le son, j'entends pas, non.
Alors, on parle des effets psychologiques sur les personnes et sur la vie quotidienne.
D'accord. Oui, donc vous me posez la question.
Vous m'entendez, docteur? Oui, oui, voilà. Expliquez-nous un petit peu le processus concernant les effets psychologiques du confinement et de la pandémie également.
Alors, on commence à avoir... Alors, effectivement, il y a eu cette phase initialement où les gens pensaient que ça n'atteindrait pas l'Africain et l'Afrique. Et on se retrouve maintenant dans une phase, en partie, d'ailleurs, pas pour tout le monde, inverse, où finalement, il y a une forme de psychose. Si quelqu'un fait un malaise dans la rue, tout le monde s'écarte, alors que c'est un simple, ça peut être un simple malaise. Enfin voilà, on se retrouve dans des effets complètement inverses, mais comme il y a un petit peu partout, avec les gens qui commencent à avoir peur. Ça, c'est clair. C'est vraiment la situation qu'on commence à avoir ici, mais avec parallèlement des positions un peu inconscientes avec des personnes qui ont à un moment voulu maintenir certains types de rassemblements. Mais heureusement, les États commencent à prendre ces décisions par rapport, par exemple, aux rassemblements religieux, aux prières du vendredi, où justement, il faut faire très attention parce que c'est le meilleur moyen de diffuser ce virus et après, on en aura les conséquences. Maintenant, pour le confinement, vous vous doutez aussi que non seulement je vous ai parlé du problème financier, mais il y a l'autre problème, c'est que quand vous vivez dans des concessions où vous avez sur 80 mètres carrés 15-20 personnes, vous vous doutez que ce confinement est très complexe et très délicat. De toute façon, pour l'instant, c'est pas un confinement la journée qui est proposé dans la plupart des pays. C'est quasiment systématiquement la journée. Les gens peuvent aller au travail, les gens peuvent se déplacer, mais avec des mesures pour éviter que les gens soient proches, hein, c'est-à-dire dans les transports en commun qui étaient avant bondés, il faut un espace entre. Les sociétés prennent de plus en plus de mesures. Il y a aussi tout ce qui est expliqué comme mesures de prévention. Et à côté de ça, le soir, quand les gens rentrent chez eux, c'est évident qu'ils se retrouvent en groupe. Et c'est là où je pense qu'il faut faire des mesures aussi ciblées de prévention. C'est-à-dire que qui sont les personnes à risque, et celles-là doivent être plus isolées carrément par les familles. Et expliquer aux gens que leurs personnes âgées, autant que possible, on les préserve en les mettant vraiment, si possible, dans une seule pièce. Si on peut éviter que les enfants jouent avec, si on peut éviter que les adultes qui sont sortis aillent les voir, et vraiment faire des mesures d'isolement très, très sévères, si j'ose dire, par rapport à ces personnes âgées à risque, ou les personnes qu'on a vues plus jeunes, comme à risque aussi, comme les personnes qui ont un surpoids, les personnes hypertendues, diabétiques, qui ont une insuffisance respiratoire, ces personnes-là aussi, si on peut avoir des mesures renforcées d'isolement à titre déjà individuel, je pense qu'elles doivent se préserver, que c'est très important.
Docteur Thierry Cardozo, comment ne pas céder à la psychose ?
Alors oui, c'est vraiment une très bonne question. Je pense que effectivement, comme l'a dit le docteur Diop, il y a tout un tas de symptômes qu'il faut peut-être justement surveiller. La première des choses, c'est se renseigner sur des sources d'informations valides. Il faut essayer de ne pas trop être exposé, dans la mesure du possible, à tout ce qui peut entretenir des rumeurs. Et donc, moi, ma première recommandation, c'est de prendre des informations, peut-être une à deux fois par jour maximum, et puis d'essayer de mettre à profit, si je puis dire, cette période-là pour aller peut-être explorer des choses qu'on n'a pas le temps d'habitude de faire, et que ce soit si on est avec ses enfants, de jouer, de retrouver un certain nombre d'habitudes, d'installer des routines, d'organiser des activités. C'est très très important d'avoir une journée rythmée qui va permettre aussi de reconstruire éventuellement des liens ou renforcer des liens. On parle beaucoup de distanciation sociale. Il faut l'entendre comme de la distanciation physique, mais pas de l'isolement social. Donc, je proposerais presque un autre terme qui serait plutôt de dire promouvoir la distanciation physique, c'est-à-dire un minimum d'un mètre entre une personne ou l'autre. Vous voyez que c'est pas énorme, un mètre. Et le risque de contagion, c'est un mètre pendant 15 minutes. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas, en effet, comme l'a évoqué le docteur Diop, de se méfier des gens dès lors qu'on croise quelqu'un, lorsque on peut aller faire ses courses juste pour sortir. Et en effet, on n'est pas dans un confinement absolu comme ça a pu être vécu, notamment dans la ville de Wuhan en Chine, où on pouvait même plus, dans le dernier stade de confinement, faire ses courses. Donc ici, on a quand même une possibilité de mettre à profit un certain nombre de moments, et à la maison, et même si on est seul, d'organiser aussi cette connexion sociale. On peut passer des coups de fil, on peut passer des coups de fil vidéo aujourd'hui avec la technologie. Donc il faut vraiment ne pas penser la distanciation sociale comme un repli sur soi, mais plutôt comme du temps pour prendre soin de soi et prendre soin des autres. Et ça, c'est vraiment très très important, parce que ce qui peut apaiser les inquiétudes et calmer l'agitation, c'est en effet se connecter aux autres, penser aussi aux autres, essayer d'aller au-delà de sa propre situation très inconfortable et qui est tout à fait difficile. Et c'est normal d'être inquiet, c'est normal d'avoir peur dans une situation pareille. Il ne s'agit pas de minimiser cela, mais vraiment de prendre la source d'information là où elle est la plus valide, mais ne pas non plus, et notamment pour les enfants, ne pas les exposer à des images comme on peut voir aujourd'hui, de réanimation, etc., mais plutôt essayer de les écouter pour les faire parler, leur demander comment ils vivent la situation, les aider à réguler leurs émotions. Ça, c'est vraiment très très important. Et puis il va y avoir de la frustration, il va y avoir de l'ennui, il va y avoir l'impression qu'on est vraiment dans la contrainte. Et donc organiser ces journées, c'est reprendre un peu la main de façon volontaire pour transformer la contrainte en une activité volontaire. Et ça, c'est très très important pour garder, réduire le stress et réduire du coup l'impact sur son système nerveux. C'est mettre le système nerveux au repos, dormir comme il faut, et on sait qu'il peut y avoir des problèmes d'insomnie, et ces insomnies sont tout à fait normales, et elles sont dues à ce mental qui, comme un petit vélo, va vous raconter toute l'histoire qui est en train de se passer et va imaginer le pire. Tout ça, c'est normal, parce que c'est notre système nerveux qui tente à nous protéger. Donc il ne faut pas s'inquiéter d'avoir ça, mais plutôt prendre conscience que nous sommes dans une réactivité particulière et que c'est normal. On fait tout en sorte pour se protéger et du coup, d'une certaine manière, se féliciter, je dirais presque, d'avoir ce souci de soi et de l'autre.
Docteur Massamba Diop, pas évident également d'être confiné avec des enfants et des jeunes enfants. Comment leur expliquer avec des mots simples la situation ? Comment gérer avec les enfants dans ces conditions, docteur Massamba Diop, si vous m'entendez ?
Oui, alors déjà, vous savez, les enfants, on est surpris. Souvent, mais on ne s'en rend pas compte, les enfants comprennent. Donc, tout ce qu'a dit mon collègue tout de suite, c'est exactement ça. C'est vraiment, vraiment ce qu'il faut faire. Et donc, par rapport aux enfants, c'est déjà leur expliquer avec des mots simples la situation. Il ne faut pas oublier quand même que la grippe normale tue de 300 à 600 000 personnes par an. Bien la grippe classique saisonnière. Là, on est devant une grippe un peu particulière parce que elle a une cinétique plus rapide, parce qu'elle est, elle se diffuse plus rapidement, parce que elle a une atteinte pulmonaire pour certaines personnes plus grave, et qu'il n'y a pas de vaccin, ce qui fait que dans les populations habituellement vaccinées à risque, elle est donc plus grave. Mais ce que je veux dire par là, il faut quand même aussi expliquer, justement, c'est pour ça que je vous dis déjà d'en parler, quand on en parle, de dire que 99% quasiment de la population, si on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui passent inaperçus, voire plus, ne décèdent pas, bien sûr, survivent, bien sûr, mais que d'autre part, donc en expliquant tout ça, et puis après, je crois qu'en fait, on est trop... Vous savez, un enfant, c'est... Il faut qu'il s'ennuie aussi pour développer son imaginaire, pour du dessin, des jeux de société. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'aussi, il faut revenir à ce que, je dirais peut-être un peu notre génération avait un peu plus vécu, où finalement, il n'y avait pas ce monde de l'électronique, les tablettes, la télévision avec ce tel débit. Et du coup, on partait dans un imaginaire pas possible. Et en fait, on se créait tout un monde. Et c'était aussi des moments extrêmement agréables après. Donc c'est pour ça qu'en fait, je pense que les enfants, faut aussi leur permettre de faire d'autres activités, des activités qui vont être un peu plus, je dirais, voyez, intellectuelles, et en profiter pour les mettre si on peut, bien sûr, hein, parce que je dis pas que c'est partout facile à la lecture, mais simplement, vous savez, un enfant, dès qu'il s'ennuie, il crée son monde, et il faut surtout le désangoisser d'un côté et lui permettre de se développer d'une façon donc un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude aujourd'hui. C'est justement l'occasion d'aller vers d'autres voies et qui sont beaucoup plus saines pour l'esprit, je le crois.
Alors, 30 secondes, docteur Massambadjo, pour dire un dernier mot aux auditeurs qui nous écoutent. Docteur Diop, vous m'entendez ? Vous m'entendez, docteur ? Alors, 30 dernières secondes, si vous le pouvez. 30 secondes pour dire un dernier mot aux auditeurs qui nous écoutent ce matin. Le docteur Massamba Diop ne nous entend pas, donc on va vous remercier, docteur Massamba Diop. On va terminer avec Thierry Cardozo. Docteur Thierry Cardozo, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette émission ? Quels sont les derniers conseils ? Il reste 2 petites minutes, je vous écoute.
Bien, je pense que il faudrait prendre conscience qu'on vit une situation très très inédite et particulière. Donc la première des choses que je dirais, c'est normal de passer par tout un tas d'émotions et par tout un tas d'états différents. Ça c'est la première chose que je dirais, c'est vraiment normal de passer par différents stades émotionnels. La deuxième chose, c'est du coup d'être vraiment au courant de ce qui se passe, sans trop chercher en permanence de nouvelles informations. La situation est finalement assez sécure lorsqu'on reste chez soi. Parce que quand on reste chez soi, du coup, on protège, je crois que tout le monde commence à bien le comprendre, on protège soi-même, mais bien sûr, et on protège surtout l'ensemble de la communauté et les plus fragiles, en leur permettant d'avoir accès au meilleur des soins possibles. Donc vraiment, et du coup, on diminue un petit peu la pression sur le système et les soignants. De ne pas hésiter à demander de l'aide par téléphone, par vidéo, peut-être de changer un petit peu si on est un peu timide ou si on n'ose pas ou si on pense qu'on va embêter les uns et les autres. C'est le moment vraiment d'échanger, de parler, de faire parler les enfants, de demander aussi aux enfants ce qu'ils en pensent. On parlait tout à l'heure des enfants. Les enfants, si on est en famille, ils ont envie de participer. Ils ont envie de faire des propositions. C'est aussi l'occasion peut-être de revoir un peu les dynamiques familiales. Bref, je dirais en conclusion que c'est aussi une opportunité de créativité. Certes, c'est difficile. Certes, ça peut être très inquiétant. Certes, pour certaines personnes, il y a plein de questions qui vont se poser, tant au plan de la santé, bien sûr, on a peur de l'infection, mais aussi au plan financier, mais aussi au plan de l'avenir de son travail, etc. Donc, de s'inquiéter, c'est normal. D'avoir peur, c'est normal, mais
de rester ensemble. Merci, docteur.
Je vous en prie. Au revoir.